Mon voyage aventureux en Russie communiste, quatrième partie. Les Russes sont très religieux, je l'ai dit. Le gouvernement bolchevique n'a donc pas osé attaquer directement la religion, mais il se réserve le soin d'en affranchir peu à peu les masses. Dans un musée, j'allais passer indifférente devant quelques cadavres momifiés et conservés sous une vitrine lorsque ma conductrice m'arrêta. « Les moujiks, me dit-elle, croient aveuglément les prêtres qui leur enseignent toutes sortes de superstitions. Ils vénèrent notamment les momies qu'on leur dit avoir appartenu à des saints auxquels Dieu avait fait la grâce de ne pas tomber en pourriture après leur mort. Pour leur enlever cette croyance enfantine, nous avons disposé ici des momies de plusieurs espèces. Voici la momie d'un saint que nous avons prise à un sanctuaire. À côté, vous voyez la momie d'un criminel qu'on avait oublié dans sa prison et qu'on a retrouvé bien des années après sa mort. » Se retournant, elle ajouta « Enfin, dans cette petite boîte de verre, la momie d'un rat. » Nous expliquons aux visiteurs que si le corps du saint a pu bénéficier de la faveur divine, on s'explique mal que le criminel ait pu en bénéficier lui aussi. Et on ajoute enfin qu'il est peu probable que le rat ait mené une vie particulièrement édifiante. Il paraît que des discussions très vives s'engagent autour des momies. Bien des moujiks, même en présence des faits, se refusent à abandonner leurs croyances. Malheureusement, les mauvaises conditions de la vie matérielle retentissent sur l'instruction. Des bandes d'enfants traînent dans les rues. On manque de locaux scolaires, de livres de classe, de papiers, de plumes, d'instituteurs. C'est l'effet de la guerre et du blocus, l'effet du sabotage du régime par les classes moyennes. Enfin, on doit accuser aussi l'inaptitude des Russes au travail suivi et à l'organisation. De cette inaptitude, on se rend compte à chaque pas. Une représentation théâtrale annoncée pour 8 heures n'est pas commencée à 9h30. La salle n'est pas chauffée, on grelotte, Nietzschevo, cela ne fait rien. À défaut de leçons de révolution, on peut, en Russie, faire tout un cours de patience. Que de temps perdu à attendre le train, le tramway, la personne qui vous a donné rendez-vous et qui ne vient pas. Le temps ne compte pas, ici, comme dans tous les pays arriérés. Je réussis, après bien des démarches, à voir quelques usines. La production est tombée à un rendement très bas. L'ouvrier est loin d'avoir la mentalité qu'il faudrait pour que des ateliers communistes puissent prospérer. Les moteurs, basés sur l'égoïsme individuel, n'étant plus, l'ouvrier travaille le moins possible. Il se rend à l'atelier soviétique à l'heure de la soupe, il signe la feuille de présence et file par une porte dérobée, non sans avoir chapardé un peu de matière première, avec laquelle il confectionnera chez lui des objets qu'il ira vendre au marché. Avec des chambres à air d'automobile, il fabrique des bretelles, des jarretières, etc., sans le moindre souci du mal qu'il fait dans un pays si démuni. Une usine de robinets pour locomotive que je vais voir un matin me paraît fonctionner assez bien. Elle est en voie de croissance. J'assiste à la fusion du cuivre dans des cubilots de systèmes primitifs. Dans un coin de l'usine, je vois 2 cloches qui ont été, me dit-on, prises à Vrangel. On les a apportées là pour les fondre, mais les ouvriers s'y refusent parce que ce sont des choses du bon Dieu. Que faire avec un pareil peuple ? Je voudrais bien m'entretenir avec les ouvriers pour savoir ce qu'ils pensent du régime. Mais cela ne m'est pas possible à cause de la langue. On ne m'a pas donné d'interprète. Il est d'ailleurs très difficile de se renseigner. Si on demande à un ouvrier ce qu'il reçoit, il commence par dire qu'il ne reçoit rien du tout. Lorsqu'on le presse, il finit par avouer qu'il reçoit ceci, cela, mais que ce n'est pas régulier. Dans une tannerie, je suis réduite à visiter les ateliers vides. C'est lundi, on ne travaille pas. Les ouvriers sont en même temps paysans. Ils demeurent dans la banlieue de Moscou et on leur donne congé du samedi midi au mardi matin pour leur permettre de cultiver leurs morceaux de terre. La fabrique de cigarettes est la mieux tenue de tous les établissements industriels que j'ai vus à Moscou. Les ateliers sont propres et très vastes. Des ventilateurs électriques envoient l'air frais et happent les poussières. 1000 ouvriers, 200 hommes et 800 femmes travaillent dans cet établissement. Les vieilles femmes trient les feuilles de tabac, les jeunes mettent les cigarettes en boîte, les hommes surveillent les machines qui coupent les feuilles de tabac en fils très fins. Tout le monde est payé en cigarettes qu'il faut vendre. À partir d'octobre 1921, on doit payer en argent. C'est un des effets de la nouvelle politique. Les salaires sont relativement élevés et le personnel ne paraît pas malheureux. Il est 11h30, l'heure du déjeuner. Les ateliers se vident. Le flot des ouvrières dégringole les escaliers avec des rires et va s'égayer dans la rue, jupe courte à la façon parisienne. En passant devant nous, elle rit à gorge déployée. Sans doute que tout, dans notre allure, montre que nous ne sommes pas d'ici, ce qui veut dire que nous sommes bêtes. Je me croise un instant à Belleville. Je me rends compte par expérience que le régime de la terreur, insécurité à part, est singulièrement gênant. On ne peut pas faire un pas sans être muni d'un propushka, laissez-passer. À la porte des édifices publics, à l'entrée de la moindre réunion, un soldat rouge avec son fusil, baïonnette au canon, défend, tel l'ange biblique, l'entrée du paradis terrestre. Impossible de pénétrer si vous n'avez pas le propushka. On va le chercher dans une boutique à côté, il faut faire la queue, montrer ses papiers, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Une fois, comme je voulais entrer au Kremlin, on ne s'est pas contenté de mes papiers, on a téléphoné au Comintern. Ce luxe de précaution vise à prévenir les attentats, qui sont fréquents. On m'a montré l'ancienne résidence du Comintern. Il n'en reste que les murs branlants. Les anarchistes l'ont fait sauter avec une bombe. Il y a eu une douzaine de morts. Tous ces propushkas constituent pour moi la chose la plus insupportable. Je passerai encore sur la mauvaise nourriture, l'inconfort. Mais ces démarches continuelles auprès de bureaucrates hargneux m'exaspèrent au suprême degré. Ils me feraient prendre le communisme en horreur. À Paris, pendant la guerre, j'avais enduré quelque chose d'approchant. Pour avoir une carte de charbon, il me fallait subir de la part des employés de la mairie de mon arrondissement un interrogatoire en règle. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette maison? Où étiez-vous avant ?» Et la préposée, se faisant de son rôle une très haute idée, prenait le ton fatal d'un juge d'instruction qui s'efforce d'établir la preuve de votre crime. Cela ne m'est arrivé qu'une fois. J'ai préféré, plutôt que revenir comparaître, me passer de carte de charbon et employer le système D. Tout le monde se récrie contre la bureaucratie. C'est une injure d'être appelé bureaucrate. Cela équivaut à peu près à contre-révolutionnaire. Dans ses ouvrages, Lénine se montre désolé de cette invasion de scribes, mais il ne sait pas comment en débarrasser la Russie. « Prenez avec vous tous ces gens, » a-t-il dit à un délégué. « Emportez-les, vous nous rendrez service. » C'est l'instauration du communisme qui a donné à la bureaucratie ce développement sans précédent. L'État prenant à sa charge toute la vie des citoyens, leur nourriture, leur logement, leurs vêtements, a dû nécessairement établir de grandes administrations. Le danger était que la bureaucratie ne devienne une caste dominante. Dans un de ses ouvrages, Lénine espère qu'on évitera ce péril en appelant aux fonctions de bureaucrates des gens de culture primaire. Les examens difficiles qu'on fait passer aux candidats fonctionnaires dans les pays occidentaux sont pour les heureux élus une source d'orgueil. Je ne suis pas ici de l'avis du chef du gouvernement bolcheviste. La culture est un bien en soi, et il y a beaucoup de chances pour que le fonctionnaire inculte soit tout aussi orgueilleux tout en étant moins intelligent. L'orgueil, point n'est besoin du savoir pour le donner au bureaucrate. Sa fonction y suffit, et amplement. j'ai pu voir, à une représentation théâtrale, un certain nombre de spécimens de la nouvelle aristocratie bureaucratique. Une femme circulait pendant les entr'actes au bras d'un homme. Elle portait, étalée sur ses épaules, avec une ostentation ridicule, une écharpe de dentelle blanche. Le couple semblait foudroyer de son dédain le reste de l'univers. Les bâtiments soviétiques sont bondés à craquer d'employés de toute espèce. La plupart ne paraissent pas surchargés de travail. Ils lisent les journaux, discutent, boivent du thé. Ils sont loin cependant d'être contents, du moins si j'en juge par quelques-uns avec qui j'ai pu m'entretenir parce qu'ils savaient le français. Une dactylo est furieusement anti-bolcheviste. « On ne la paie pas, dit-elle, et la nourriture qu'on sert dans les restaurants soviétiques n'est pas mangeable. Pour vivre, elle vend tout ce qu'elle possède, jusqu'aux jouets de ses enfants. » Une autre est employée au comité exécutif. « Son travail, me dit-elle, est intéressant, mais les conditions matérielles sont affreuses. Et puis elle souffre du manque de liberté. Elle allait autrefois à Vichy tous les ans pour soigner son estomac. Maintenant, défense de quitter la Russie. Tous les employés sont militarisés. » En revanche, je trouve un fonctionnaire enthousiaste du régime. Je l'ai rencontré par hasard dans la rue et il m'a invité chez lui. Logement décent, d'hommes de nos classes moyennes. Rien du désordre russe. Une bibliothèque, un piano, quelques meubles de salon. Dans un coin, un haut meuble à porte vitrée. « C'est, me dit-il, une pièce de l'agencement d'un magasin de nouveautés dont il a fait une armoire. » Il me raconte qu'il a dû effectuer lui-même son déménagement, l'égalité communiste ayant supprimé les déménageurs. Cela lui a causé beaucoup de fatigue, car il demeure au 5e étage. Il a une femme, une fille et un grand-fils sur lequel il fonde beaucoup d'espoir. On m'offre à dîner, un dîner que le plus pauvre ouvrier de Paris trouverait frugal. Quelques navets, un petit pain fait de farine de haricots, une tasse de thé sucré avec un morceau de poire cuite. C'est, dit-il, un festin auprès de ce qu'on mangeait au début de la Révolution. Dans le dénuement général, on a dû se nourrir de choses horribles, des pommes de terre gelées, des entrailles putréfiées de poulet, et personne de la famille n'a été malade. Dans cette maison, on ne récrimine pas. On souffre avec patience, parce qu'on a conscience de souffrir dans un intérêt supérieur. On a la ferme croyance que la victoire est au bout. Un ami de la maison, venu prendre le thé, raconte un fait très curieux des régions affamées de la Volga. Une ville était à tel point démunie de choses susceptibles d'être mangées que les rats l'avaient abandonnée brusquement. On voyait des champs entiers couverts de ces animaux qui, par millions, fuyaient le pays pour gagner des régions plus hospitalières. Mes nouvelles connaissances m'engagent vivement à m'installer définitivement à Moscou. Il m'apparaît même que la femme est choquée dans son sentiment à la fois national et communiste lorsque je hasarde quelques critiques. Elle croit que je n'aime pas la Russie. Elle se trompe. J'aime malgré tout la Russie, qui a tenté de faire la révolution sociale. Seulement, j'ai trop observé pour me faire des illusions, pour ne pas voir derrière les mots les réalités qui ne sont pas belles. Je n'ai pas tous les jours un établissement à visiter. Lorsque je n'ai rien à voir, je me promène. Je ne décrirai pas Moscou, tout le monde peut en lire la description dans les guides. La place Rouge a une grande originalité avec son Kremlin au mur de briques surmonté de créneaux et sa minuscule chapelle byzantine, qui, avec ses multiples coupoles bariolées, fait songer à une touffe de champignons. Au centre est l'échafaud de pierre, où avaient lieu autrefois les exécutions, d'où le nom de Place Rouge. Les rues sont proprement tenues, on les balaye plusieurs fois par jour, avec des balais de bouleaux. Les communistes sincères se réjouissent de cette propreté, qui est récente, paraît-il. Elle marque le premier pas de la société communiste dans la voie de l'ordre et de l'organisation. mais que de trous dans les trottoirs. La nuit, il est dangereux de s'aventurer par la ville. Seules les artères principales sont éclairées, et dans les rues noires, on risque de tomber à chaque pas. J'ai vu les tramways que Wells a décrits. Certes, ils sont bondés. Les gens montent sur les tampons, les marchepieds, s'accrochent où ils peuvent. Mais ce n'est pas si terrible que l'écrivain anglais le dit. On peut en voir autant dans les quartiers ouvriers de Paris à 7 heures du soir. Les personnes qui ne sont pas cataloguées comme « travailleurs » n'ont accès dans ces tramways que de 10 heures à 4 heures, moyennant 2 000 roubles. Il y en a d'ailleurs assez peu pour une aussi grande ville, ce qui fait que les communications sont très difficiles. Aussi, l'usage du téléphone est-il généralisé. On se lève tard, je l'ai dit. C'est seulement à 10 heures du matin que l'on peut assister au défilé des gens qui vont à leur travail. Les hommes portent des costumes semi-militaires, hautes bottes de cuir, dolman ou blouse russe, casquette où brille l'étoile soviétique. Presque tous ont sous le bras un large portefeuille de cuir. Beaucoup de femmes ont les cheveux courts et portent des coiffures masculines. Certaines sont chaussées de hautes bottes noires, rouges ou vertes, avec des arabesques qui rappellent l'Orient. En général, elles sont pauvrement habillées. Les administrations soviétiques donnent rarement des habits, et pour s'en procurer dans le commerce, il faut payer très cher. À Moscou, on jouit d'une grande liberté à l'égard de la toilette. On peut mettre ce que l'on veut. Les Russes se montrent en cela plus civilisés que les Français. Il suffit de sortir dans la rue pour se convaincre de la puissance que conserve encore la religion sur l'esprit des masses. Dès qu'un Russe rencontre sur son chemin la moindre chapelle, il fait le signe de la croix. Et il paraît que dans ce geste, il faut encore apporter de l'attention, car en le faisant incorrectement, on risquerait de faire venir le diable. Le dimanche, les églises regorgent de monde, hommes, femmes, enfants. On y voit même des soldats de l'armée rouge. C'est à qui déposera un billet sur le plateau, où il y en a déjà un gros tas. On ne dirait pas que le peuple est dans la misère. En dehors des offices, on entre dans les chapelles, qui sont très nombreuses, on s'agenouille à terre et on baisse la vitre qui recouvre les icônes. Les vitres ont une épaisse couche de crasse apportée là par les milliers de ces baisers. C'est absolument dégoûtant. Mais les adorateurs ne sont nullement dégoûtés. Chacun ajoute ses microbes à ceux de ses prédécesseurs. Près de la place rouge est un sanctuaire de la grandeur de nos bureaux d'omnibus parisiens. On y vient, paraît-il, de toute la Russie. En face, sur un mur de briques rouges, à la hauteur d'un premier étage, la République des Soviets a mis en lettres blanches la fameuse inscription « La religion est l'opium du peuple ». Cela ne paraît pas beaucoup impressionner le peuple. Toute la journée, c'est dans le sanctuaire un défilé ininterrompu. C'est à qui se prosternera, celui qui ne peut pas entrer, baise le pavé de la rue. Comme je n'ai pas beaucoup d'occupation à Moscou, je m'amuse à inspecter les passants et à faire un pourcentage des croyants qui se signent et des athées qui passent indifférents. Je constate qu'il y en a à peu près autant des uns que des autres. En général, ce sont les jeunes qui ne font pas le signe de la croix. Heureux effet de l'éducation communiste qui se fait déjà sentir. Partout, des traces de la révolution. Sur une place, à l'extrémité d'un boulevard, un énorme entassement de débris. Ce sont les décombres des maisons qui ont été détruites par l'artillerie au cours des journées révolutionnaires. On dit que dessous, il y a plus de 100 cadavres de cadets. À côté de la place, une grande maison incendiée dont il ne reste que les murs noircis. On trouve dans les rues du centre de nombreuses maisons détruites. De ci, de là, des murs criblés de balles. On a fusillé là. Moscou manque de distraction. Un timide café à musique vient d'ouvrir sur le boulevard, une promenade plantée d'arbres. C'est une baraque en planches. Les tables sont rustiques. Les garçons vous servent en pardessus crasseux. Pour 3 000 roubles, on peut y boire un café au lait en écoutant de la musique, instruments en cuivre. Les consommateurs sont rares. Les gens, par économie, préfèrent écouter le concert de l'extérieur. On dit que ce boulevard est le marché de la prostitution. J'y vois beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, mais rien d'incorrect ne me frappe. Il est vrai que j'ignore le russe. Partout s'ouvrent des pâtisseries, au grand scandale des communistes et des anarchistes. Ils voient en elles l'expression de la défaite de la révolution. Un jour, je m'arrête machinalement devant la vitrine d'une de ces pâtisseries. Une femme, misérablement vêtue, la tête couverte d'un châle et portant à son bras droit un paquet enveloppé d'étoffe blanche, s'arrête à côté de moi et me parle en russe. « Yanni e ponimiao !» Je ne comprends pas. Elle essaie l'allemand. « Ich verstehe nicht !» Alors elle sort le français. « Je demande, madame, pour qui sont ces gâteaux ? Pas pour moi, assurément, car je n'ai pas d'argent pour les acheter. » Je réponds quelque chose, elle reprend. « Vous me prenez pour une bohémienne, n'est-ce pas ?»« Mais non, madame, vous parlez 3 langues. Ceci me montre que vous êtes une personne très cultivée. » Nous cheminons côte à côte. Elle me raconte, avec des mots de colère, le sort que lui a fait la révolution. Son mari était juge, elle avait une situation de bonne bourgeoisie, elle était heureuse. Maintenant, c'est la misère terrible. Le mari fait un cours de géographie dans une école pour avoir de quoi manger. Leurs 2 enfants sont morts. Dans son paquet, elle a des vêtements qu'elle va vendre pour acheter de la nourriture. Oh, comme je déteste ce Moscou tel qu'il est maintenant, et comme je voudrais voir pendre tous les Yorvarich, camarades. J'essaie de l'apaiser en lui disant que les révolutions, comme les bouleversements cosmiques, sont des forces aveugles qui broient les individus sans avoir égard à leurs mérites particuliers. Je lui conseille de s'adapter à la situation qui ne peut manquer de s'améliorer. Elle me regarde avec soupçon. « Vous êtes communiste, j'aurais dû m'en douter. Autrement, on ne vous aurait pas permis d'être ici. Vous allez sans doute me dénoncer. » Je la rassure. Je suis communiste, c'est vrai, mais je ne suis qu'une étrangère de passage. D'ailleurs, j'ai horreur des dénonciations. Paris commence à me manquer terriblement. J'espérais que la camaraderie me ferait oublier l'inconfort et le changement de mes habitudes. Je suis bien déçue. On ne se lit guère à l'hôtel luxe. Pas de salon, une simple salle de lecture où on vient feuilleter les journaux. Là et dans la salle à manger, on échange quelques bonjours et c'est à peu près tout. Cette froideur s'explique en partie par la situation des pensionnaires de l'hôtel. Beaucoup sont des délégués au congrès qui vient de se terminer. Ils attendent leur passeport que la bureaucratie n'en finit pas de leur donner. Un désir domine toute psychologie. Partir. La différence des langues est aussi un obstacle sérieux aux relations. Il y a bien des Russes qui ont là leur vie, mais ils semblent ne s'intéresser que peu aux étrangers de passage. Un Arménien qui parle français attire mon attention. Ses conversations sur des sujets philosophiques l'ont fait surnommer Aristote. Je m'approche d'Aristote avec sympathie, et d'autant mieux qu'il soutient seul le féminisme contre mes 2 camarades anarchistes qui conservent à l'égard de la femme tous les préjugés des bourgeois. Malheureusement, Aristote est terriblement superficiel et avec cela vaguement occultiste. La science en général, et la médecine en particulier, lui paraissent entachées d'erreurs. La vérité, il la trouve dans les histoires à bracadabrande qu'il raconte. Des chiens qui avaient eu le ventre ouvert et dont les entrailles traînaient par terre ont guéri tout seuls. Les entrailles sont rentrées, le ventre s'est refermé. Cela montre la supériorité de la nature sur la science humaine. « Les animaux, ajoute-t-il, se guérissent mieux et vivent plus longtemps que les hommes, parce qu'ils n'ont pas de médecin. » Je veux tout d'abord discuter, mais je vois vite que c'est inutile. Aristote ne mérite pas son nom. Il n'est qu'un rêveur incapable d'une argumentation sérieuse. Je l'écoute quelque temps comme un spécimen curieux. Mais j'en ai vite assez. Il dit trop de bêtises. D'ailleurs, il reçoit bientôt son passeport et retourne au pays d'Aristote, le vrai. Mes seuls compagnons de tous les jours sont deux anarchistes retour de la région du Ladoga. Le gouvernement leur avait donné une concession pour fonder une colonie libertaire. Leur tentative n'a pas duré 6 mois. Les conditions étaient mauvaises, paraît-il. Le terrain était marécageux et les paysans des environs faisaient montre d'hostilité. En outre, on avait fait un amalgame de communistes et d'anarchistes. L'accord n'était pas possible. Naturellement, les deux camarades n'avouent pas leur propre tort. Mais quelques phrases qui leur échappent suffisent à me fixer. C'était à qui ne voudrait pas travailler. Ils se reprochaient mutuellement jusqu'à une assiette de soupe. Ils ont failli s'entretuer pour des œufs. C'est toujours la même histoire qui recommence. Les colonies anarchistes finissent dans la haine et dans la violence. Voir le 5e acte de « La clairière ». Cela n'empêche pas la foi des deux camarades de rester entière en leur idéal anarchique. À les entendre, si le peuple russe est dans la misère, c'est par la faute de la dictature. Si au lieu du communisme d'État, on avait établi l'anarchie, tout irait au mieux. J'en doute fortement. D'ailleurs, leurs conceptions sont un peu vagues. Remise de l'organisation de la production aux syndicats, de la répartition aux coopératives, pas d'armée, pas de police, pas d'État. Qui centralisera les offres et les demandes de produits des diverses régions? Ils négligent de le dire. L'égoïsme humain, le désir du moindre effort, amènerait rapidement la baisse du taux de la production. On ferait peu et on ferait mal. L'organisme directeur, nommé à l'élection, manquerait d'autorité. L'un des deux camarades a conquis durant la guerre les galons de capitaine. Il prétend que la Russie pourrait se défendre sans armée. Les paysans avec leurs fusils suffiraient à repousser l'invasion. Je ne suis pas le moins du monde convaincu. Lorsque je vois dans la rue ces hommes qui se mouchent dans leurs doigts et baise la terre au passage des icônes, je ne puis me les représenter vivant en anarchie. Déjà, le socialisme qu'on a tenté d'instaurer a amené un chaos effroyable. L'anarchie ne pourrait qu'aggraver encore la situation. L'absence de police déchaînerait les instincts criminels, les instincts sexuels. On tuerait et on violenterait dans les rues, en plein jour. À la fin, pour se mettre en sécurité, les gens se tiendraient dans de petites agglomérations. La Russie se hérisserait de villages fortifiés et hostiles les uns aux autres, comme cela a lieu dans l'Afrique centrale. On reviendrait à l'état sauvage. Je trouve un appui à cette conception pessimiste dans l'exemple d'un ouvrier français avec qui je cause quelquefois. C'est un vieux militant. Il possède une certaine culture communiste. Eh bien, il blâme l'institution de l'université Sverdlov. Il trouve qu'elle est contraire à l'égalité et que les ouvriers étudiants qui la peuplent sont entretenus à ne rien faire par les soviets. Leur place, dit-il, serait mieux à l'atelier. Que des hommes de cette mentalité aient le pouvoir de décider et s'en sera bientôt fait de toute culture intellectuelle. Les anarchistes sont nombreux en Russie. C'est l'effet de la race, car l'anarchie est un tempérament beaucoup plus qu'un parti politique. En général, les anarchistes sont courageux. Aussi étaient-ils au premier rang dans les batailles de la rue. Beaucoup y ont laissé leur vie. Maintenant, ils sont persécutés par le gouvernement communiste à la victoire duquel ils ont contribué. Il y en a beaucoup en prison et on en a fusillé un certain nombre. Cela a quelque chose de navrant. Les raisons de cette attitude abominable se comprennent. Il faut mettre hors d'état de nuire à l'œuvre communiste ces éléments dissolvants qui se dressent en adversaire de tout ce qui n'est pas l'anarchie. On doit se rapporter à la phrase de Napoléon « La politique n'a pas de cœur, elle n'a que de la tête ». Je sais d'ailleurs que les camarades ne sont pas toujours impartiaux. Volontiers, il néglige de signaler les prétendus anarchistes condamnés à mort et fusillés pour des crimes de droit commun. Ils ne sont pas en contradiction avec eux-mêmes, car ils n'admettent pas la répression des délits et des crimes. Mais où irait-on si on les suivait jusque-là? À l'état sauvage, par les voies les plus directes. À défaut de l'anarchie, les camarades français voudraient que j'attrape à Moscou la maladie infantile du communisme. C'est ainsi, on le sait, que Lénine désigne le communisme de gauche. Il compte sur Alexandra Kollontai, le chef des communistes de gauche, pour me la donner. Je vais voir Madame Kollontai. Ce sera d'ailleurs la seule personnalité que je verrai à Moscou. C'est une femme élégante, qui a dû être belle, et qui est encore fort bien conservée. Elle me dit assez peu de choses, bien que j'aie pu la voir plusieurs fois. Elle semble redouter de parler de questions politiques, parce qu'il y a toujours quelqu'un là. Tout ce que j'apprends d'elle, c'est que les bolchévistes ont eu tort de ne pas faire assez confiance à la classe ouvrière. Mieux aurait valu confier aux syndicats et aux coopératives la solution des problèmes économiques. Elle me dit que le communisme de gauche réunit de plus en plus d'adhérents. Pour le moment, elle est spécialisée dans la propagande féminine qu'elle dirige. Elle a écrit un ouvrage sur la question sexuelle qui est tout à fait avancé. Les femmes de l'entourage le trouvent même trop avancé. Elle me conseille de ne pas le propager en France. Je pense au contraire qu'il serait bon de le propager. Il préconise la liberté sexuelle absolue, avec, comme corollaire, l'avortement permis et l'élevage des enfants par l'État. Un seul point où je ne suis pas d'accord avec la leader communiste, elle fait une obligation morale de l'acte sexuel. Le peu que je suis restée à Moscou m'a permis d'entrevoir ce que pourrait être une obligation morale dans une société communiste où l'individu ne compte pas. La contrainte légale a certainement beaucoup moins de force en société individualiste. Aussi, une pareille emprise de la communauté sur la vie intime de l'individu serait-elle, à mon avis, odieux. Dès qu'on met le pied dans les rues de Moscou, on s'aperçoit tout de suite que les femmes ont là plus de liberté qu'en aucun pays du monde. Les cheveux courts, qui m'ont suscité à moi-même autrefois tant de critiques, sont à Moscou, sinon en majorité, du moins dans une minorité très forte. La coquetterie est assez rare. De ci, de là, on voit quelques élégantes au mode de Paris, mais le très grand nombre des femmes sont habillées sans recherche. Madame Lénine, elle-même, que j'ai vue dans une réunion, est vêtue d'une robe noire très usagée, alors que, si elle le voulait, ses toilettes pourraient égaler celles de nos plus riches bourgeoises. Les femmes ont une grande liberté d'allure. On sent qu'elles ont acquis droit de cité. Paris ne fait que tolérer les femmes. Constantinople les enferme. Les jeunes fument la cigarette sans se gêner. J'en ai vu s'approcher d'un homme pour lui demander du feu. L'homme rendait le petit service et passait. Il ne paraissait pas soupçonner une proposition d'un autre genre. Pas de suiveur. Une jeune fille peut s'asseoir sur un banc, attendre debout sur un trottoir à n'importe quelle heure, personne ne lui dit rien. Dans les bureaux, les administrations, on voit un très grand nombre de femmes. Beaucoup de commissaires du peuple ont des femmes pour secrétaires. Elles savent les secrets d'État et les gardent avec la même discrétion que pourraient le faire les hommes. La seule chose qui choque est que toutes ces femmes sont jeunes. Et on se demande si elles ne doivent pas leur situation à leur sexe plutôt qu'à leur simple droit d'être humains. La section féminine du Parti communiste est une très grande organisation. Les soldats rouges qui gardent, baïonnette au canon, l'entrée des réunions montrent son caractère officiel. Du haut en bas de l'édifice où se tient le siège social, c'est un va-et-vient continuel de femmes. On entend de tous les côtés le bruit des machines à écrire. D'anciennes paysannes, d'anciennes ouvrières sont aujourd'hui des organisatrices intelligentes et actives. Leur visage encore fruste est comme illuminé de la lumière nouvelle. Tout un système de groupes et de chefs hiérarchisés permet à la propagande communiste d'aller toucher jusqu'à l'humble paysanne presque illettrée. Le dernier discours de Lénine, ou de Trotsky élagué, simplifié, est mis à la portée des intelligences rudimentaires. Les réunions ressemblent plutôt à des classes qu'à nos assemblées politiques. Nulle interruption. L'oratrice parle dans un silence absolu. Beaucoup d'auditrices prennent des notes. Dans une revue militaire, j'ai pu voir environ 200 femmes soldats d'infanterie qui portaient le fusil. Je ne les aurais pas reconnues sans un camarade qui me fit remarquer leurs pieds. Elles portaient des chaussures féminines. Certaines, sous la capote militaire, gardent la jupe, dernier reste des préjugés ancestraux. Il y avait aussi des femmes médecins-majors, des brancardières et des infirmières. À l'imitation de notre grande révolution, la Russie a des représentants en mission auprès des généraux. Une femme a, dit-on, été chargée de ce poste. Un journal allemand que j'ai lu tournait la chose en ridicule. Il ne croyait pas qu'un vieux sabreur puisse prendre au sérieux la jeune fille chargée de le surveiller. Outre les représentants en mission, nombre de femmes sont chargées de la propagande politique aux armées. C'est un emploi très dangereux. Tout cela est satisfaisant, mais il reste encore à faire, beaucoup à faire, pour que soit réalisé en Russie le féminisme intégral. Rien à dire au point de vue de la loi. Égalité complète. Les femmes peuvent accéder à tout, en théorie. Il n'y a guère que le service militaire qui marque dans la législation une différence entre les sexes. Les femmes ne sont pas obligées d'être soldats. Elles ont seulement la faculté de s'engager. Seule la préparation militaire est obligatoire pour les jeunes filles. On veut qu'elles puissent être une aide au lieu d'être une charge en cas d'invasion. Dans la rue, on voit des troupes de jeunes gens et jeunes filles mêlées qui marchent au pas militaire. À la vérité, les jeunes filles sont peu nombreuses. Dans la pratique, cependant, la Russie bolchévique n'a pas complètement rejeté le vieux préjugé du sexe. Au Congrès international, je ne vois guère que Madame Kollontai qui eut la parole, car il ne faut pas compter les déléguées étrangères. Rien que des hommes sur l'estrade des quelques assemblées auxquelles j'ai pu assister. Les femmes sont dans le public et elles ne parlent pas. Dans les fonctions supérieures de l'État, peu ou pas de femmes, car il ne faut pas évidemment compter au nombre des conquêtes féministes le fait que Madame Lénine et d'autres épouses de commissaires du peuple collaborent avec leurs maris. Cela a existé de tout temps. La Russie ne refuse pas à la femme le droit de s'occuper des affaires publiques, comme le fait par exemple la France. Loin de lui refuser ce droit, elle lui en fait un devoir. Mais quand même, la femme n'est pas tenue pour l'égale de l'homme. On sent cela partout. Les femmes acceptent en général passivement cette situation inférieure. Quelques-unes même refusent de la voir, par amour du communisme. Elles me citent les quelques femmes qui ont ou qui ont eu un emploi de grande responsabilité, afin de détruire l'impression qui s'impose à moi. Certaines prétendent que l'absence de femmes dans les premiers emplois tient uniquement à ce que ces emplois exigent une haute science politique que les femmes ne possèdent pas. Cela doit être vrai très certainement, en général. Mais étant donné que les femmes militent depuis fort longtemps dans les partis socialistes russes, il est vraiment étrange qu'il y en ait aussi peu qui soient capables de participer à la direction de la révolution. La création d'organisations féminines spéciales, à l'instar du parti allemand, a répondu à une nécessité. Néanmoins, elle a pour effet d'isoler les femmes et de les mettre à part de la grande politique. À toutes les réunions féminines auxquelles j'ai assisté, il n'était question que de l'organisation de colonies d'enfants. La situation l'exigeait, il s'agissait de sauver de la mort les enfants des régions de la Volga. Néanmoins, dans les réunions d'hommes, on s'occupait de sujets beaucoup plus généraux. ce qui fait que les réunions féminines perdaient en intérêt. Elles ressemblaient un peu aux œuvres de bienfaisance dans lesquelles nos confessions religieuses groupent les femmes. Une camarade venue à Paris, animée par le sentiment de rivalité féminine, a raconté, paraît-il, que j'avais une fois quitté la séance du comité des femmes pour aller dîner. Le dîner de l'hôtel Luxe. À la vérité, le dîner m'attirait assez peu, mais je bâillais à me décrocher la mâchoire dans ce comité, où depuis 2 heures je n'entendais parler que d'enfants, et encore en russe. Je préférais aller lire dans un coin de la salle de lecture. On m'a dit que j'ai fait presque une révolution parmi les femmes de l'hôtel, parce que, au cours d'un dimanche de travail dit communiste, j'ai refusé d'aller coudre avec elles. L'hôtel Luxe, je l'ai dit, n'est pas aimé du peuple. À tort ou à raison, les ouvriers voient dans ces pensionnaires une nouvelle classe dominante qui se substitue à la bourgeoisie. Pour calmer le ressentiment populaire, on décide que de temps en temps, les intellectuels de l'hôtel iront faire une journée du seul travail que les ouvriers considèrent comme tel, le travail matériel. Donc un dimanche, dès 8 heures du matin, la cloche est agitée sur tous les paliers. Nous nous habillons à la hâte et descendons à la salle de lecture. Après un déjeuner sommaire, nous sortons et, précédé d'un immense drapeau rouge, notre cortège s'ébranle. Des soldats commandent la marche en allemand « Ein, zwei, vorwärts » « Une, deux, en avant ». Nous montons la Tverskaya, longeons le boulevard de gauche et prenons l'Arba jusqu'à Denigye Peyraloulok, où se trouve le Comintern, comité international. Là, on s'approche de moi et on me dit qu'en ma qualité de génocin, citoyenne, je dois me joindre aux femmes qui restent dans l'établissement et font des travaux de couture. J'ai l'indignation de Tartarin de Tarascon lorsqu'on lui proposa de prendre l'ascenseur. Moi, coudre? Ah non, par exemple. Je ne suis pas venu à Moscou pour travailler dans un ouvroir. La couture, c'est le symbole de l'esclavage féminin. C'est ce que je pense, mais ce n'est pas ce que je dis. D'abord, parce qu'il faudrait le dire en allemand, ce dont je me sens incapable. Ensuite, parce que j'ai l'impression qu'on ne me comprendrait pas. Je me contente donc de dire que je préfère aller travailler avec les camarades hommes. Il y a là les 2 anarchistes, l'ambassadeur, in partibus, de la Hongrie, un homme très aimable, l'Andrieux, de l'Humanité. Je suis en pays de connaissance. « Mais c'est un acte d'indiscipline, » me répond-on. « Je m'en moque, je ne suis pas d'ici, d'ailleurs. Si j'étais d'ici, ce serait la même chose. » Nous voilà donc repartis. Un bataillon de l'armée rouge nous précède. Une, deux, en avant, marche. Je m'imagine un moment que nous irons ainsi jusqu'à Paris. Nous arrivons à une gare, c'est là qu'est la besogne. Elle consiste à charger dans des wagons de marchandises des traverses de rails en bois, à demi pourries. Ces traverses doivent servir de combustible. Un vent glacé souffle tout le jour et une pluie fine nous pénètre. Je remarque, dans cette simple besogne, la différence des mentalités. Certains, bien que taillés en Hercule, travaillent pour la forme. Ils sont la plupart du temps partis, Dieu sait tout. D'autres font vraiment tout ce qu'ils peuvent, tel par exemple l'ambassadeur in partibus. Et il n'est pas fort cependant, il est même tuberculeux. Je m'en aperçois à sa maigreur et à la toux sèche qu'il ne peut pas retenir. Ce travail terrible ne finit qu'à 4 heures. Je reviens tristement seul, car les hommes ont marché plus vite que moi. Le trajet est fort long. Je suis mouillé, mon costume tailleur est plein de boue, ainsi que mes mains. Je trébuche avec mes mauvaises chaussures sur le pavé boueux des rues interminables. C'est cela, l'idéal que je suis venu chercher aussi loin? Je suis comme une mendiante. N'en pouvant plus, j'entre dans une stolovaya de l'Arba, où je demande un chocolat pour mes derniers 6 000 roubles. Je n'aurai même pas pour payer le petit pain qui en coûte 4 000. C'est un endroit relativement chic. Le patron me regarde d'abord de travers, mais la patronne me connaît, je suis déjà venue. Elle considère mes mains et mes vêtements boueux et me demande d'où je viens. Je le lui dis. Elle fait alors une moue de dédain. Évidemment, elle n'est pas communiste. Le soir, au dîner, les camarades me disent que mon acte d'indiscipline a mis à l'envers toutes les cervelles féminines de l'hôtel. Les anarchistes, qui tiennent absolument à ce que je n'ignore rien des dessous du régime, me montrent la prostitution qui revient avec la nouvelle politique. « Elle n'avait pas disparu, » ajoute-t-il. « Si vous ne la voyez pas, c'est parce que vous êtes femme. Mais nous la voyons, nous autres hommes. On peut avoir facilement une femme pour 50 000 roubles. » Un exemple vient illustrer leur dire. Un délégat au Congrès international s'est fait ces jours derniers entoler à Moscou. Et c'était horreur, l'argent que le Comintern lui avait donné pour son retour. Les anarchistes, qui ignorent les questions féministes, ne voient dans la chose que l'immoralité traditionnelle. J'ai la peine d'y voir la persistance du vieil esclavage féminin. Si la prostitution existe, c'est que, ici comme ailleurs, les hommes sont seuls les maîtres de l'argent ou de ce qui en tient lieu. Pour être bien nourries et bien habillées, les jeunes femmes qui ont de la beauté se font entretenir par les puissants du jour. Les sotcom, ou maîtresses de commissaires, sont un objet de scandale. On raconte à leur sujet la plaisante anecdote suivante. Une longue queue, comme on en voit beaucoup à Moscou, stationnait devant un bureau où l'on donnait des cartes de payoc. Les gens attendaient là depuis des heures, lorsqu'une jolie jeune femme de mise élégante, chaussée de magnifiques souliers, jaune à talons de 18 cm, passe hardiment devant la file des expectants. Elle laisse tomber sur eux un regard méprisant et pénètre d'autorité dans l'édifice. Elle en ressort bientôt, tenant sa carte à la main. Un pop, qui stationnait là depuis longtemps, s'étonne de l'injustice criante. Il demande à ses voisins comment il se fait que la dame puisse être ainsi privilégiée. « Ce n'est pas étonnant, lui dit-on. C'est une sotcom. » Le pop n'est guère mieux renseigné, mais c'est un homme avisé, et il se dit en lui-même « S'il suffit d'être sotcom pour passer tout de suite, je vais dire que je le suis. » Le voilà qui sort du rang, entre dans l'édifice et dit aux fonctionnaires qui distribuent les payocs « J'ai le droit d'être servi de suite, je suis sotcom. » L'employé, scandalisé, au lieu de faire droit à la demande du pop, appelle un agent de la Tchéka et le fait conduire en prison, sous l'inculpation de sodomie. Évidemment, ce pop, âme innocente et pure, n'avait pas compris toute la portée du titre qu'il s'octroyait avec tant de désinvolture. Le code que les bolcheviks ont rédigé à la hâte sur le mariage marque un très grand progrès en comparaison des lois similaires du monde entier. Pas de formalités compliquées. Les fiancés, sans demander le consentement de personne, vont devant le fonctionnaire déclarer qu'ils veulent se marier. On les marie. La femme ne perd pas son nom en se mariant. Entre les deux époux, la loi établit l'égalité complète. La femme ne doit pas obéissance à son mari, et quant à la protection, la femme la doit au mari, comme le mari la doit à la femme, lorsque l'un ou l'autre sont hors d'état de travailler. L'adultère n'est pas un délit. La femme peut même l'avouer publiquement, en allant déclarer au fonctionnaire que l'enfant dont elle est grosse n'est pas de son mari, mais de tel autre homme. Article 340. Le divorce est aussi facile que le mariage. Il est accordé sur la volonté d'un seul des époux. La destruction des vieilles lois qui régissaient l'union des sexes a eu certaines conséquences fâcheuses. Un grand nombre d'hommes ont, paraît-il, profité des nouvelles libertés pour abandonner leur vieille femme et en prendre une jeune. C'est fâcheux, mais on ne fait pas de progrès sans léser quelqu'un. Dans l'ensemble, la liberté sexuelle est une bonne chose, elle affranchira la femme. Pas d'émancipation réelle pour la femme tant qu'elle recherchera dans l'homme le soutien de sa vie. Elle ne devient vraiment libre et responsable que lorsqu'elle doit travailler pour vivre. Et les enfants? L'avenir, c'est l'éducation par l'État. En attendant, la mère a droit à une allocation ainsi qu'à une réduction du temps de travail. J'assiste à la première séance du congrès des jeunesses. Les membres s'y rendent en groupe, jeunes gens et jeunes filles au pas militaire. 4 ou 5 000 personnes environ dans la salle. Tout le monde est très mal habillé, mais fort gai. On ne dirait pas que toute cette jeunesse mange du pain noir et pas grand-chose avec. Ils n'ont pas l'air de souffrir. Ils rient et chantent en attendant l'ouverture de la séance. Pas une femme sur l'estrade. Le président ouvre le congrès, puis Trotsky s'avance, soulevant dans l'assistance des tempêtes de bravo. Il parle de l'ultimatum de la Pologne et de la guerre qui menace. C'est la France, foyer des idées nouvelles autrefois et aujourd'hui boulevard de la réaction, qui excite la Pologne à faire la guerre à la Russie. Elle veut à tout prix empêcher le communisme de s'organiser. On dit Trotsky très éloquent. Mon ignorance de la langue m'empêche de m'en rendre compte. Je constate seulement qu'il parle avec beaucoup de chaleur. J'assiste aussi au comité exécutif des soviets. Il se tient dans une salle toute ronde d'un palais du Kremlin. Partout, des drapeaux et des bannières rouges avec des inscriptions communistes. Devant chacune des nombreuses fenêtres, le buste ou le portrait d'un précurseur de la Révolution. Au fond de l'estrade de bois, qui n'est pas encore achevée, un énorme buste en plâtre de Karl Marx. Rien du protocole de nos assemblées parlementaires. Sur l'estrade, le président, le camarade Kalénine, est en casquette. Il fume la pipe. Beaucoup d'autres dignitaires fument la pipe également. Pas de femmes sur l'estrade, à part les dactylos qui vont et viennent des papiers à la main. Dans l'hémicycle, à gauche, je vois une vieille dame aux cheveux blancs. Alexandra Kollontai est debout auprès d'elle dans une attitude pleine de respect. C'est Madame Lénine. Je la reconnais de suite, parce qu'on m'a dit qu'elle a une maladie dont le diagnostic est facile à faire. Bientôt, on fait sortir tous les invités. Mesdames Lénine et Kollontai sortent aussi. Il y a séance secrète. Il s'agissait, me dit-on le lendemain, d'une affaire très grave. Des ingénieurs, employés à l'électrification de la Russie, ont saboté le travail. On les a arrêtés. Ils seront fusillés pour l'exemple. On devient indulgent pour le désordre russe lorsqu'on voit combien le pays est rempli d'ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'hostilité des classes moyennes, que l'on disait enrayée, ne l'est pas, tant s'en faut. Que d'intellectuels n'ont accepté de servir la Révolution que pour détruire son œuvre en détail. Après des démarches multiples, j'ai pu me procurer un billet pour le Soviet de Moscou. Je suis juché tout en haut dans une tribune. On ne me fait pas honneur. Ce qui est plus fâcheux, c'est qu'à cette place, il n'y a autour de moi que des ouvriers qui ne savent pas un mot de français, et que de cette façon je ne puis obtenir aucune explication. Là non plus, pas de femmes sur l'estrade, seuls des hommes prennent la parole. La tribune est d'abord occupée par un vieillard à barbe blanche. J'apprends le lendemain que c'est un menchevik. Trotsky vient ensuite. Il est ovationné. Son discours porte sur la guerre éventuelle avec la Pologne, qui est la question brûlante. Tout ce que je peux saisir, c'est que derrière la Pologne, il y a la France. C'est la France qui pousse à la guerre. Ce pays, qui est aujourd'hui le plus réactionnaire du monde, voudrait anéantir la Russie communiste. Mais l'armée rouge est là. Il y a ce dimanche matin une revue sur la place rouge. Je m'y rends, mais un barrage de soldats m'arrête. Impossible de passer sans Propushka. Il faut à Moscou des propushkas pour la moindre réunion. Précaution contre les attentats. Je retourne à l'hôtel, mais le commandant du bureau 34, qui m'est décidément hostile, pourquoi Dieu le sait, me refuse. À force d'insister, je finis par obtenir le papier et me voilà dévalant la Tverskaya vers la place rouge. Je montre mon propushka Il paraît qu'il n'est pas bon. Pourquoi ? Je finis par m'en rendre compte. Tout le monde a un propushka écrit à l'encre rouge. Le mien est écrit à l'encre noire. Donc, le soldat ne sait pas lire. Seule la couleur de l'encre le guide. J'insiste. Je prononce le sésame qui, en théorie, doit m'ouvrir toutes les portes. La délégate. Je suis délégué. On m'envoie à un officier qui, par bonheur, sait lire. Et il me laisse passer. Il y a une élévation de terrain en bordure du Kremlin. Elle est remplie de tombes. On a enterré là quelques étrangers morts dans les batailles révolutionnaires et aussi des délégués au dernier congrès international qui ont péri récemment dans un accident de chemin de fer. Le public s'entasse sur ce terre-plein pour assister à la revue. Il y a 60 000 soldats, parmi lesquels, je l'ai dit, 200 femmes, tous bien équipés. Tunique kaki descendant jusqu'aux pieds, casque pointu en toile kaki, orné d'une toile soviétique en laine rouge. Pas de galon, seul le drap et la coupe des vêtements désignent les officiers supérieurs. Devant le Kremlin, on a aménagé une tribune pour les orateurs. Un délégué allemand, puis Trotsky, harangue l'armée qui manifeste par des hurrahs son approbation. Mes deux ex-fils, que je rencontre là, sont choqués de ce que cette armée ressemble aux autres. J'essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas plusieurs façons de transformer une cohue en une force agissante. Un révolutionnaire doit préférer voir, au service de ses idées, l'armée qui marche à la victoire que la foule émeutière vouée à l'écrasement. Le spectacle de Trotsky, acclamé par les soldats, me rappelle des lectures. Je pense aux revues de Quintidi, de Bonaparte, sur la place du Carrousel. Le rapprochement n'est pas de nature à me choquer. Pourvu que Trotsky reste dans les idées qui l'ont porté au pouvoir. Je n'ai pas le préjugé de la forme du gouvernement. Une république peut être très réactionnaire. Par exemple, la République française au moment où j'écris. Trotsky a des qualités de conducteur d'homme, parmi lesquelles une énergie et une activité rares. Et je ne suis pas de ceux qui, au nom d'un fatalisme qu'ils attribuent à Marx, nient la valeur des hommes et leur influence sur les événements. L'homme ne peut rien en l'absence des circonstances, mais les circonstances sans les hommes capables de les accoucher n'enfantent rien. Nous avions eu en France, en 1919, une situation révolutionnaire. Si un Lénine et un Trotsky, possédant la confiance des masses, avaient existé chez nous, nous serions probablement à l'heure actuelle un État communiste. Après les discours, l'armée défile. L'infanterie avec son bataillon de femmes soldats, les mitrailleuses, l'artillerie légère, le génie, les tanks. En marchant, l'armée chante des chansons révolutionnaires. Voici ce que j'ai pu en retenir. La chanson des soviets. Écoute, ouvrier, la guerre est commencée. Laisse là tes outils, prépare-toi à marcher. Refrain. Hardis au combat, nous irons pour les soviets. Ensemble, nous mourrons en luttant pour eux. Voilà les tranchées, les balles sifflent, les obus explosent, mais l'armée rouge ne se rend pas. Vive notre Lénine, le chef de l'internationale. Vive notre Trotsky, le chef de l'armée rouge. Cette chanson, me dit-on, a pris le Pérékope, une forteresse très importante de Crimée. Voici maintenant la chanson des marteaux, ou plutôt ce que j'ai pu en retenir. Nous sommes les forgerons d'un monde meilleur, nous forgerons le fer sur l'enclume. Lève-toi, lève-toi, marteau dur, lève-toi et frappe au cœur les ennemis de la révolution. L'armée rouge comprend, outre l'infanterie, la cavalerie, le génie et l'aviation. Une sixième arme, la propagande. Trotsky, renouvelant Saint-Just, va enflammer de sa parole les armées au combat. Il parle jusque sous les balles. Un grand nombre de militants, hommes et femmes, sont chargés de missions analogues.